Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc on continue sur adoration ou adorateur. On était dans la joie, la fête, la liberté. Vous savez, quand on... Dans une église, systématiquement, il n'y a pas de joie. Je vous ai dit, il y a un problème, quoi. Hein? Alors, bien sûr, on peut voir toutes les réunions où on se réjouit. Il y a des moments différents. Mais d'une manière globale, générale, il doit y avoir cette joie qui est présente, qui représente la présence de Dieu. Parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Donc, une église qui n'a pas de joie, pas de force. C'est tout simple. Hein? Donc, il faut que la joie trouve sa place aussi. Et c'est ça qui va combattre la mort, la tristesse, la religiosité. Quand on est religieux, on n'est pas joyeux. Dans l'adoration, il y a du changement, ça bouge, ça évolue. Toute vie évolue, n'est-ce pas? Une plante, une fleur, un animal, un être vivant, il change, il évolue. C'est normal. Ça fait partie du processus de vie. En opposition, dans l'adorateur, les structures sont primordiales, pas de changement possible, ou très peu de changement possible. Tous les 20 ans, éventuellement, on change une virgule. Bien sûr que c'est plus facile de garder des structures que de changer. Moi-même, pour moi, ce serait plus facile en tant que musicien et chant d'avoir toujours les mêmes chants. J'en connais déjà à peu près 300-400 de chants. Donc chaque fois qu'il y a des nouveaux chants, ça me donne du travail, n'est-ce pas? Je dois les travailler, je dois les répéter, je dois savoir les jouer, je dois apprendre les paroles par cœur, alors qu'il y en a déjà beaucoup qui sont dans ma tête. Ils vont encore en rajouter. Je dis des fois, le disque est plein, Seigneur, comment il faut faire? Mais en même temps, Dieu m'en donne des nouveaux. Il m'en donne même à moi des nouveaux à composer. Donc, j'y vais, quoi. Parce que je sais que ça vient de lui. Et on a toujours l'impression qu'on a déjà tout chanté, tout d'un coup, il y a un nouveau chant qui arrive, et puis il y a une nouvelle chose qui sort dans le chant. Vous avez déjà remarqué ça, hein? Il y a une nouvelle forme d'adoration, une nouvelle manière de chanter ou d'exprimer quelque chose à Dieu. C'est vrai que les mots principaux, l'adoration sainte, elle reste la même, mais ça élargit notre facette, notre manière de faire. Donc il faut accepter cette nouveauté, ces chants nouveaux, c'est pas pour rien que la Bible en est pleine. Dans l'adoration, on est appelé et choisi par Dieu d'abord. C'est-à-dire que les hommes, les femmes qui servent, qui s'engagent, sont des appelés de Dieu. Alors que dans l'adorateur, on est choisi par les hommes. En toi, tu es beau, toi, tu chantes bien, toi, tu es fort, toi, tu es musclé, toi, tu es ci, toi, tu es ça. Alors on te prend. Tu nous plais. C'est pas évident de discerner qui est choisi et appelé par Dieu. Parce qu'en même temps, on est tous choisis. Mais l'appel, c'est différent du choix. Donc l'appel est lié à ce que Dieu a prévu pour nous. Donc on doit discerner. Nous sommes sur les rôles des leaders spirituels, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, de discerner qui est appelé dans quel ministère. Et quand on est appelé, quand on est à notre place, c'est beaucoup plus facile que si on fait quelque chose pour remplacer ou pour occuper un poste, n'est-ce pas? Je pense que vous avez tous fait l'expérience de voir dans vos églises, dans les ministères, des gens appelés par Dieu à leur place, ça se sent, quoi. Il est bien à sa place, il est parfaitement à sa place. Alors que quelqu'un qui remplace, qui bouche un trou, qui prend une fonction, on se dit, mais il n'est pas fait pour ça, quoi. Et c'est toujours difficile ensuite de corriger. C'est toujours sur le même point. Il y a de l'amour, du pardon, de la compassion. Ça se manifeste dans la louange et dans tout ce qui est autour de la louange et de l'adoration. Alors que dans l'adoratène, il y a de la comparaison, de l'exigence, de la pression et de la copie. Il y a des gens qui copient. Vous savez, des fois, je sors d'une réunion, il y a quelqu'un qui vient à moi qui me donne ta liste de choses. Je dis, mais pourquoi? Ah, mais c'était tellement bien, je vais faire la même chose à l'église. C'est sérieux, hein?
Oui, ça, ça arrive,
c'est pratique, hein? Oui. Mais comme ça, je n'ai pas besoin de préparer. Je prends la liste de Sylvain, elle était bonne, donc ça ira bien, quoi. Mais même moi, avec la même liste, je peux vous dire qu'une fois, c'était très bien, mais une autre fois, ça sera catastrophique. Je ne peux pas recopier. J'arrive pas, je dois recopier. C'est pour ça que j'ai détruit mes listes. Elles s'autodétruisent automatiquement. Non. Il arrive qu'il y ait certains chants qui se répètent, qu'il y ait des enchaînements qui se répètent, deux chants qui vont ensemble, etc. Mais jamais, jamais, je copie. Je ne me copie même pas moi-même. Mais je ne veux encore pas copier les autres, n'est-ce pas? Par contre, je vais m'inspirer. Quand je sens l'onction chez quelqu'un dans un ministère, je vais m'inspirer de cela, évidemment. Je vais avoir soif, je vais vouloir apprendre d'un autre où je sens la présence de Dieu. Mais je ne vais pas copier sa manière de faire. D'ailleurs, je ne peux pas en copier. Je ne suis pas cette personne. Alors, attention à cela. Et attention à toute la pression. Si vous êtes dans la pression quand vous faites la louange, bien sûr, pour une pression, parce qu'on est un petit peu, pas tout à fait au point sur quelques accords, et puis on se concentre pour bien y arriver. Mais si du début à la fin, il y a une pression sur vous, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi. Il y a quelque chose qui doit être réglé en vous, et aussi au niveau peut-être de la louange générale, et à discuter, parce que on doit être bien quand on fait la louange. On doit être dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion, dans la présence de Dieu. Quoi. C'est, Seigneur, on est bien avec toi, n'est-ce pas?
C'est là.
Oui.
Pour revenir à avant, si tu es dans une église et puis tu n'as pas forcément le pouvoir de changer les choses parce que tu n'as pas une responsabilité particulière ou bien tu as des responsabilités mais il y a le conseil qui bloque, et puis tu sens qu'il y a des personnes qui vraiment ne sont pas à leur place. Par exemple, typiquement, elles disent oui, moi je fais ça, les gens qui le reconnaissent, moi je fais ça, mais c'est dans mon ministère, c'est parce qu'il faut revenir un trou. Et tu sens que l'église n'est pas réalisée parce qu'il y a peut-être une autre personne qui serait mieux. Qu'est-ce que tu peux faire
ensemble? À part prier. Et je crois qu'il faut bien comprendre la question des sphères d'autorité. C'est vrai que si tu es en position d'autorité, tu as une position de responsabilité, tu peux faire quelque chose à cause de ta position. Mais si tu es en position de membre et de participant, à part prier et parler, je ne vois pas ce que tu peux faire. Donc c'est ça qu'on a parfois un gros dilemme, parce qu'on ressent beaucoup de choses, mais en même temps, il faut qu'on agisse dans nos sphères d'autorité. Parce que si tu n'as pas d'autorité, tu es juste membre, et puis tu fais tout le temps dire celui-là il n'est pas à sa place, celui-là il ne fait pas ça, lui, ça va pas marcher. Parce que les gens ils vont sentir que le jugement et la critique. Par contre, si tu es en position d'autorité, ça veut dire qu'on t'a mis dans cette position-là parce qu'on a reconnu aussi ton appel, tes dons. Là, tu peux discuter d'égal à égal avec ces gens. Alors, ce n'est pas forcément évident non plus. Hein, dans des conseils, dans des discussions de leadership, des fois, il y a des choses difficiles. Mais tu es obligé d'être dans cette position-là, autrement, ça ne va pas être reçu. Donc moi, je me déplace beaucoup, je vais dans beaucoup de situations, mais je parle que quand j'ai l'autorité de parler. Si un pasteur vient vers moi et me dit « Écoute, je sens qu'il y a un problème dans mon groupe de louanges, quel est ton conseil ?» Je vais le donner. Mais ce n'est pas moi qui vais avoir l'autorité d'aller dans une église et dire « Lui, il doit chanter, lui, il ne doit pas chanter, lui, il doit se retirer, vous devez prendre celui-là. » Ça serait du contrôle et de la manipulation. Ce n'est pas mon rôle. C'est au responsable de l'église, au pasteur de le faire.
Ça peut être frustrant quand tu es... J'ai jamais eu de cas, mais si j'imagine des fois des gens qui ont des fois beaucoup de perspicacité, qui sont dans une église depuis 20 ans, qui voient qu'il faut que le conducteur de louange n'est pas à sa place, qui sont eux-mêmes des très adorateurs, et qui sentent qu'on sent différemment dans les choses pour être décoincés. Ça doit être extrêmement frustrant de vivre ça pendant des années.
Et oui.
Je me demande si c'est une personne dans ce cas-là, on ne peut même pas lui conseiller de changer d'église.
Ça, c'est une question très difficile, très délicate, hein, mais c'est vrai que peut-être qu'une fois, c'est la seule solution. Hein. C'est peut-être l'extrême, mais il y a des moments, peut-être, qu'il faut, plutôt que de rester normal pendant 10 ans parce qu'on ne reconnaît pas son ministère, il faut peut-être changer, effectivement. Mais je crois que si vraiment, effectivement, la personne qui fait la louange n'est pas à sa place et que l'autre dans la salle devrait le faire, un jour ou l'autre, ça va se voir, ça va se sentir, les choses vont se mettre, mais ça va passer par quelques tensions, difficultés, quoi. Mais ce n'est pas à toi de te mettre en avant. Ce n'est pas moi qui vais aller vers le pasteur et lui dire « Écoute, pasteur, moi j'ai un ministère de louange, est-ce que tu pourrais me donner la place ?» Ce n'est pas possible. Il faut que ça vienne de Dieu, il faut que ça vienne tout seul. Mais le pasteur, il va très bien voir. Tu sais, les leaders responsables, ils cherchent toujours des gens pour les aider. Mais ils ne veulent pas prendre des gens qui font que de râler, que de se plaindre et de dire que tout va mal. Donc s'ils voient chez quelqu'un le potentiel, mais aussi le cœur, je pense que c'est ça qui va aider. Moi, je me souviens, il y a 20 ans en arrière, j'ai déménagé dans la région du Verdon, je suis engagé dans une église. Eh bien, j'avais déjà un ministère, j'étais déjà à louange dans plusieurs endroits. Et dans l'église, c'était le pasteur qui faisait la louange, la présidence, le message, qui faisait tout. Et sa femme qui joue du piano.
Donc, c'était les deux qui avaient le monopole de toute l'église. Hein? Un bon couple, très efficace, mais très fatigué aussi. Hein? Et très fatigant aussi pour les gens. C'est ça. Donc, mais malheureusement, une fois, moi j'étais là, les gens m'ont accueilli dans l'église, les gens me connaissaient, ils me disaient, oh, c'est super, tu vas faire la louange. Je dis, non, moi je suis dans l'église, c'est tout. Hein? J'ai rien demandé, quoi. Et puis, une fois, la femme du pasteur était malade. Alors, à qui on demande pour remplacer? Sylvain, si tu veux pas jouer, c'est pas de problème. J'ai joué du piano, c'est le pasteur qui a dirigé, c'est lui qui a choisi les chants, c'est lui qui a pris la langue. Moi, j'aurais pu aller lui dire, écoute, pasteur, tu sais, moi, je sais faire un louange, j'ai déjà fait ici, j'ai déjà fait ça. J'ai rien dit, j'ai joué. Et puis, les gens disent, ah, c'est bien, Sylvain, t'es joué, tout le monde était content, etc. Tu voudrais pas faire une autre fois? J'ai dit, bah, si on te demande, je veux bien, mais moi, je demande rien. Et puis, on m'a demandé une deuxième fois, parce que le pasteur et sa femme étaient partis en vacances. Et puis après, le conseil a dit, ah, mais c'est bien que la femme pasteur joue, mais ce serait bien Sylvain joue aussi de temps en temps. Alors on a commencé à me demander de faire une fois par mois. Puis moi, j'avais déjà mon idée derrière la tête. J'ai dit, ok, mais je connais ce frère, il joue de la guitare. Est-ce qu'il pourrait pas venir jouer avec moi? Ouais, pourquoi pas? Il vient me jouer en fait piano et guitare, deux instruments. Incroyable, révolution dans l'église. Hein? Et tout d'un coup, le gars qui avait sa guitare dans son armoire parce qu'il avait été arrêté de jouer, et puis le groupe de jeunes était tout content de jouer. Et il s'est mis à retrouver sa joie et à développer le ministère de louange et à progresser dans la louange. Donc, on a développé ça comme ça. Et puis, petit à petit, les choses se sont construites, quoi. Donc, on ne peut pas faire une révolution d'un jour, mais si tu as une vision, moi, je me suis fixé une année, par exemple, dans ce cadre-là, pour dire, d'ici une année, j'espère qu'il y aura au moins 3 ou 4 musiciens dans l'église et 2 personnes différentes qui dirigent. Et une fois, le pasteur était absent, sa femme était là, et il a demandé que ce soit une autre personne qui préside. Donc, sa femme jouait, mais c'était une autre personne qui a conduit la louange. Puis une autre fois que moi je devais jouer, le président n'était pas là, on m'a dit, est-ce que tu veux aussi conduire la louange? J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Petit à petit, les gens ont dit, mais c'est bien quand ça varie, quand ça change. Et puis après, on a fait de la place pour d'autres, et puis la mentalité a commencé à changer. Mais ça a pris une année ou deux, même plus peut-être. Je ne me souviens plus exactement. Donc, il faut se laisser le temps, quoi. Si tu veux faire la révolution en une semaine, ça va être difficile, tu vas tout casser. Hein? Mais si tu veux que les choses changent, parce que tu as une vision, c'est bien ça, le but, c'est pas changer pour changer. Hein? Parce que ça ne va rien amener de plus. Quoi. Si tu prends une autre personne, si tu fais la révolution, tu vides la femme du pasteur, tu dis que c'est pas juste, elle veut quelqu'un d'autre, et après c'est une autre personne qui fait tous les dimanches, c'est pas mieux. Il hein? Faut juste corriger, changer, adapter, puis amener plus. Et puis après quelques années, on avait 4 groupes de louanges avec 20 musiciens. Donc chaque groupe avait 4-5 musiciens, chanteurs, et puis ça s'est développé. Donc je crois qu'il faut, se laisser le temps, avoir une vision à long terme, et puis pas casser les choses, et prier. Mais c'est vrai que si tu es pendant 5 ans dans une église, tu as un appel, tu as une vision, puis qu'on te laisse rien faire...
Oh, c'est pas mon cas.
Ah ouais,
j'ai vu des gens des fois faire ce genre de remarques. Et puis des fois, ce qu'ils disaient, c'était pas si faux, quoi.
Des fois, c'est pas si faux, mais simplement leur attitude et leur cœur n'est pas juste. Et c'est ça qui bloque. Ils ont la peine, ils ont le don, mais le cœur n'est pas droit. Donc, moi, en tant que leader, je suis pas prêt à laisser les gens comme ça prendre une responsabilité, quoi. Parce que quand ils sont devant, ils vont amener cet état d'esprit. Moi, j'ai vu des leaders de louange qui engueulent les gens, quoi. Comment vous n'avez pas envie de louer Dieu ce matin? Allez, c'est le moment quand même. Allez, levez-vous. Allez, on va chanter. Écoute.
On est où là?
On est où, quoi? Exactement. Ça marche pas. Parce qu'ils sont, ils ont une attitude de rébellion en eux, quoi. Voilà, adorateur. Ok, on continue, on va terminer avec ça. L'adoration, donc, nous conduit devant Dieu à l'écoute de son esprit. Adorateur nous conduit devant les hommes et leurs messages. Il me semble que dans l'adoration, à un moment donné, Dieu parle, quoi. Dieu est là, on sait qu'il est là. Peut-être qu'il nous parle au travers des paroles d'un chant, au travers d'une pensée, du prophétique, d'un message, où tout d'un coup, tu es tellement prêt que la parole de Dieu qui va venir maintenant par le prédicateur, tu sais que c'est Dieu, quoi. Qui te parle, et ça te prépare. Alors que d'autres fois, on dit, bon, maintenant on a fini la louange, enfin on va pouvoir entendre le message, et puis, c'est comme si, bon, c'était secondaire, quoi. Et puis le message est important, parce que on va expliquer toutes sortes de choses aux hommes, d'une manière humaine. C'est pas ça qu'on veut, n'est-ce pas? Dans l'adoration, on est centré sur Jésus. C'est lui le plus important. Tandis que dans l'adoratène, on est centré sur les besoins des hommes. Et ça, c'est très subtil. Même dans nos louanges évangéliques, ça peut arriver. Ou la louange, moi j'écoute bien les chants qui sont chantés dans les églises. Je regarde bien les paroles. Tout en participant, en m'appliquant, des fois je ressens quelque chose. Par exemple, dans certaines réunions où je me suis trouvé, toute la louange c'était « Seigneur bénis-moi, Seigneur remplis-moi, Seigneur touche-moi, Seigneur moi. » Et c'est qui est Dieu, finalement, hein? C'est moi qui est Dieu. J'ai tellement de problèmes, tellement de besoins. Bien sûr qu'on a besoin que Dieu nous touche. Mais si toute la louange, c'est ça, c'est pas correct. Il y a un problème. Oui?
Justement, il y a quand même des gens qui sont tournés vers nous. Justement, est-ce que c'est juste ça, de tourner des gens sur nous comme ça?
Alors, si, moi, je prends toujours là, comme référence les psaumes. Si tu regardes les psaumes, tu as exactement la moitié des psaumes qui sont « je » et la moitié des psaumes « nous ». Donc, je pense que on a besoin d'être touché par Dieu. Si Dieu ne t'avait pas touché, nous, individuellement, s'il n'était pas venu à notre rencontre, on ne serait pas là. D'accord? S'il n'avait pas répondu à nos besoins. Mais après, à partir d'un moment, quand tu es dans la maturité chrétienne, une vraie adoration, comme j'ai parlé hier, nous, à Dieu avec maturité, tu dépasses ce stade. Tu commences à dire « ok, c'est plus moi le plus important. Maintenant, Dieu m'a sauvé, je me consacre à lui et c'est lui le plus important. » Mais il y aura toujours dans l'église des gens qui sont dans cette situation de besoin. Et puis même nous, avec la maturité de référence, il y a des jours où on est encore vraiment dépendant de Dieu, et puis qu'on a des difficultés, dit « Seigneur, touche-moi, j'ai besoin de toi. » Mais sur une heure de louange, ou sur 30 minutes de louange, un chant, deux chants, bénis-moi, et après, c'est moi qui te bénis, quoi. Hein? Et ça, c'est le danger, parce que naturellement, on va chanter « bénis-moi ». Naturellement, c'est ça, parce que j'ai des besoins, j'ai besoin d'être bien, je me sens mal, oh, maman m'a parlé ce matin, je suis fatigué, c'est dur au travail, j'ai besoin de finances, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. On peut chanter ça toute la journée, tous les jours, j'ai besoin de toi. Et c'est juste d'avoir besoin de Dieu. Mais Dieu veut nous faire aller plus loin, Dieu veut servir de nous comme des instruments de louange, où on le bénit lui. Non, ça doit être centré sur Jésus. Donc moi, à la fin de la louange, j'ai un sentiment un petit peu mitigé quand j'ai pas eu au moins un chant où on adorait Jésus, où on adorait Jésus, où Dieu était là au centre, quoi. Où c'était tout sur moi. Alors donc, je pense que c'est la responsabilité du président, ou du chantre, ou du responsable de louange, de choisir des bons chants. Donc ça veut dire que sur un choix du Jeff, par exemple, de 200 chants, tu peux prendre que tous les chants où il y a moi. Et puis si tu fais que ça tous les dimanches, ben, c'est là que tu as un problème. Mais tu peux aussi les prendre et puis les mettre avec d'autres chants. C'est là où tu vas trouver un bon équilibre. Et en lisant les psaumes, tu vas trouver cet équilibre-là. Quoi. Hein? Donc il ne faut pas se détacher de nous-mêmes, il faut être dans notre qualité, mais il faut aussi penser à nous. Prendre des chants qui parlent de nous, pas seulement de moi. Résultat de toute cette adoration, Dieu est souverain et nous nous prosternons pour le servir. Ça, c'est la vraie adoration. On devrait toujours en être dans cette situation. Arriver finalement, Seigneur, je suis à tes pieds, je suis venu devant toi, prêt à te servir. Quelqu'un qui vient dans l'adoration devant Dieu, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il se met à genoux devant le roi, devant son trône, comme un serviteur. Vous voyez un film ancien du Moyen-Âge, là. Le roi, son trône, le serviteur vient. Il attend que le roi dise de se relever. Et puis il lui donne une mission. Vas-y, tu peux y aller, tu es mon serviteur. Il ne va pas se relever tant que le roi ne dit pas de se relever. Alors, adoratène, résultat, l'homme reste le maître, et on sert l'homme, ainsi que les structures. Donc, l'humanisme est Dieu. L'homme est Dieu. C'est les hommes, c'est pour mes hommes, c'est pour ceux qui sont autour de moi. C'est eux que je veux servir, c'est eux que je veux aimer. Alors souvent, c'est inconscient, bien sûr. Mais ça, c'est parce que c'est une mentalité ambiante, c'est une culture ambiante. On est dans cette culture-là, on est dans cette société-là. Et dès que tu deviens trop passionné pour l'adoration, alors là, ça se passe mal. On te traite de quelqu'un d'extrémiste, hein? Intégriste, même. Mais tu ne peux pas être adorateur et puis humaniste en même temps. Un vrai adorateur, il va être extrémiste. Alors peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on a de la peine à saisir ou à comprendre. Et un vrai adorateur va être extrémiste, va être passionné pour Dieu.
Oui, oui. C'est bon?
12 et 11 points, c'est pas une nouvelle liturgie, c'est pas une nouvelle théologie, c'est des constatations que j'ai faites. Hein. J'ai vu dans la réalité, en comprenant vraiment l'adoration, et en comprenant aussi comment fonctionne le monde religieux et le monde aujourd'hui. Donc, n'allez pas avec ces points attaquer votre église, vos responsables de louange, en disant « Oui, oui, j'ai vu, tu fais le point neuf comme Athènes, là, c'est pas juste, c'est tout. Hein. » Restez toujours dans la paix, faites les choses avec amour, parlez ouvertement des choses, mais le but, c'est de ramener les choses dans le bon équilibre. Je parle exprès des choses extrêmes qui sont parties du faux côté pour pouvoir les ramener. Et moi, j'aspire à avoir une vraie adoration. Hein? Une vraie adoration où on est centré sur Jésus, on se place devant lui, et puis on a envie d'aller plus loin. Ça trace, merci. Alors, je vais vous passer une chanson que j'ai composée l'année dernière, si vous voulez, qui parle un petit peu de ce que j'ai composé sur ce thème-là. Nous sommes une maison. Donc, je l'ai exprès écrit en nous. C'est-à-dire, nous sommes, pas seulement moi. Je ne suis pas quelqu'un d'unique. Nous sommes tous appelés à être un autel de prière, un lieu pour sa présence.
C'est vrai que t'es vachement
là. Ah ouais. Alors, moi, je crois que je comprends. J'espère que je comprends toujours.
ce chant, il y a un coup d'état.
Ok, donc voilà, on a tout un travail à faire pour construire ce tabernacle, je crois. Et il y aura différentes formes. C'est simplement, je pense que l'Église va évoluer aussi dans ce sens-là. N'est-ce pas? On ne va pas se limiter maintenant à avoir une église qui fait juste des réunions et des cultes. Quoi. C'est une église qui va former un vrai tabernacle. Et de plus en plus, ça se passe par les nations. En Europe, on est les derniers. Mais dans tous les autres continents, il y a des maisons de prière, il y a des tabernacles de David qui ont lieu déjà 24 sur 24. En Inde, il y a une maison de prière où c'est seulement des enfants de 6 à 16 ans qui sont plus de 100 à 200 tous les jours. Jour et nuit à prier, à intercéder. En Indonésie, qui est un pays musulman, le premier pays musulman du monde, ils ont plusieurs maisons de prière qui tournent avec des centaines et des milliers de personnes qui prient jour et nuit pour le réveil de leur pays. Alors, voilà, on a au Burkina, au Ouagadougou, chez Mamadou, il y a une maison de prière qui existe depuis 5 ans. Grande maison, 24 heures sur 24, qui prie pour la nation. Ils ont des cartes de prière, ils ont des cartes de la nation, ils prient pour le gouvernement, ils prient pour les autorités, ils intercèdent, ils louent, il y a des pièces de prière. Yom Kishou à la montagne de prière depuis déjà bientôt 20 ans. Merci cette vision-là, les gens vont. Au départ, c'est plutôt pour des retraites personnelles de prière, mais c'est aussi maintenant un lieu de prière, d'adoration. Et il y en a de plus en plus et de plus en plus. Et aussi la vision de ces 24-7, par exemple, qui était développée en Angleterre, spécialement chez les jeunes, c'est d'avoir des endroits de prière partout, dans les écoles, dans des universités, dans des lieux de travail, dans les entreprises. Et là, ça peut trouver un lieu, et dans ce lieu, constamment, c'est un tournus de chrétiens qui viennent et qui prient, et qui louent, et qui adorent. Donc je crois que ça fait partie vraiment de la stratégie de Dieu, de ces temps, de ces derniers temps. Et on va bâtir ce tabernacle. Je crois qu'il faut qu'on comprenne cette vision-là. Qu'on ouvre notre mentalité, qu'on élargisse notre vision en celle de l'Église, je dirais, traditionnelle. Qui ne va pas être enlevée, détruite, mais qui va simplement évoluer dans cette direction-là. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on va devenir, dans certaines personnes, certains pasteurs affligés par ça, ils ont un petit peu peur, ils ont dit, mais il n'y a plus que la louange qui compte alors. Mais pas du tout. Pas du tout. On est bien conscient que la louange, c'est un processus. C'est un fondement, mais à partir de la louange, si vous comprenez tout l'enseignement que je vous ai donné, la louange, ça nous amène au centre de la cible, ça nous amène dans le cercle, puis à partir de ce cercle-là, il y a tout le reste. Il y a la mission, il y a l'évangélisation. Si on prend les exemples dont je vous ai cité, dont je vous ai parlé, du frère Morave, puis il y a le réveil en Irlande, c'était, ça envoyait des missionnaires. Donc quand tu t'approches de Dieu, quand tu l'adores vraiment, c'est un résultat. Le problème, c'est que souvent on a fait l'adoration peut-être d'une manière tellement religieuse et habituelle pendant des années que ça ne produit aucun résultat. Donc les gens, c'est, je comprends que les leaders ne veulent pas une louange qui ne produise pas de résultat. Une vraie adoration consacrée à Dieu va produire un résultat. Et je crois qu'aujourd'hui, on va entrer dans une période où les choses vont être de plus en plus visibles, de plus en plus réelles. C'est-à-dire que ces choses vont être confrontées. Là, j'anticipe déjà sur le message de tout à l'heure, je ne vais pas démarrer juste avant la pause, donc je vais plutôt partager comme ça quelques pensées sur les choses qui se passent aujourd'hui. Je crois que, je dirais, pensée prophétique louange, voilà comme je l'intitule, c'est quelque chose, pensée que je vais vous donner maintenant. Je crois qu'il faut savoir qu'il y a un changement qui s'annonce, qu'on soit prêt à ce changement. Et chaque fois qu'il y a un changement dans l'histoire de l'Église, ou dans l'Église, on a de la paix. Il y a des gens qui soupirent après cela depuis des années, enfin, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout prêts à cela, et qui réagissent fortement à ce changement, qui ne veulent pas que ce changement arrive. Et je pense que c'est important déjà de préparer nos cœurs. Si on est prêt, ça va être beaucoup plus facile. Si on a déjà acquis cette souplesse, cette mentalité que Dieu change les choses, que Dieu veut changer les choses. Alors attention, pas mal de comprendre, Dieu ne change pas, il est même hier, aujourd'hui, éternel. Mais Dieu s'adapte à la situation du monde dans lequel on est. Dieu sait parler à un Indien d'Amazonie, il sait parler à un businessman de Hong Kong, un homme d'affaires de Paris, un musicien de New York, etc. Vous voyez ? Donc même s'il ne change pas, il va parler de manière différente aux hommes qu'il veut atteindre. Et je crois que ça, il faut le comprendre, ce changement s'annonce, il faut qu'on soit prêt
à s'ouvrir à cela. Il y a toujours plus de spontané qui est là. Et je pense que dans la louange aussi, c'est quelque chose de découverte, c'est qu'on doit apprendre à être beaucoup plus spontané, tout en travaillant, tout en ayant un niveau qui nous permette, bien sûr. Il faut qu'on soit prêt à changer. C'est-à-dire, changer, ça veut dire que dans un culte de réunion, peut-être qu'on avait prévu 10 minutes de louange, et puis que ça va être une heure de louange. Ou le contraire. Peut-être qu'on avait prévu une heure de louange, mais qu'après 10 minutes, tout s'arrête parce que Dieu est là, et puis parce qu'on doit se repentir. Et ça demande énormément de souplesse et d'engagement de la part des leaders et des présidents. Et pour eux, c'est une grande responsabilité. Et je sais que c'est pas facile. Et ayant été aussi président de culte et de réunion, je sais que c'est pour moi des endroits les plus difficiles. Parce que sentir ce qui se passe, et surtout agir en fonction de ce qui se passe. Parce que souvent on se dit, oui, c'est bien, mais on va pas le faire. Parce qu'il y a encore ces annonces, il faut encore faire ci, il faut encore faire ça. Puis on passe à côté. Et c'est dommage. Il faut qu'on arrive à une assez bonne collaboration, relation entre le pasteur, les présidents, les anciens, pour pouvoir avoir une interaction totale. Moi, j'aime beaucoup me trouver dans des réunions où je connais les leaders, ou avec qui on a une bonne relation, où on peut fonctionner comme ça. Du style, ben, moi, je conduis la louange. Et de plus en plus, je dis aux gens, aux leaders, aux présidents, écoute, je te laisse terminer. Tant que tu ne m'arrêtes pas, moi, je continue. Parce que moi, j'ai pas envie que la louange s'arrête. Je suis dans le tabernacle, dans la vision. Donc, si tu me donnes 30 minutes, je m'arrêterai au bout de 30 minutes. Mais si tu ne m'arrêtes pas, je continue. Donc déjà là, je donne une possibilité d'aller plus loin. Mais je ne le fais pas d'une manière agressante. Je ne dis pas, je suis là, je veux une heure de louange. Je respecte ce que d'autres ont reçu ou ressentent. Mais si après 30 minutes, il y a une telle présence de Dieu, une telle aspiration à l'adoration, tout le monde est la présence de Dieu, c'est le président qui va être gêné d'arrêter. Parce qu'il va sentir que ce n'est pas le moment d'arrêter. Et qu'il faut continuer, et que Dieu est en train de parler. Et peut-être qu'il y aura 5 minutes de plus, ou peut-être une heure de plus, je ne sais pas. Et là, c'est quelque chose qui doit se travailler, et on doit être prêt à prendre cette souplesse-là. Donc, quand j'ai une bonne relation avec un leader, qu'est-ce que je fais? Au bout de mon temps écoulé, je le regarde, je communique. Je ne vais pas faire un grand conseil conciliabule. Ouais. Mais j'essaie de capter son regard, ou juste m'adresser à lui. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, avec mes yeux, avec mon... Je lui pose la question. Et quand je vois l'idée qui me dit, vas-y, continue. Alors je continue. Ou il y a un micro, il dit, voilà, on va continuer ensemble, Dieu est présent, et je crois que c'est juste maintenant. Voilà ce qui a été dit dans cette parole, dans cette prophétie, on va vivre ça maintenant. Saisir l'occasion de vivre les choses. Tellement souvent, Dieu dit les choses, mais on ne les fait pas. Je crois que c'est important de capter ces moments et de les faire. Alors, des fois c'est le contraire, des fois le président c'est ce qu'il veut, mais le groupe de louange n'est pas prêt à cela. Et ça aussi, ça arrive. Le président, il sent, voilà, il faut vraiment qu'on continue l'adoration, puis le groupe de louange, oh, on a plus de choses, on a fini, ben, on ne sait plus quoi faire. Alors, ben, c'est le président qui doit reprendre, qui doit improviser, et puis anticiper la chose. Oui, je l'entends.
Le général de la figure, c'est un débat sur le sujet. On se demandait si c'était le dimanche matin, c'était l'occasion de partir plus loin, je ne sais pas du temps. Prophétique, des chants en langue, des choses comme ça.
Ouais.
Où est-ce qu'on aurait un meilleur temps pour racheter les gens qui sont plus jeunes dans la foi, les non chrétiens, d'organiser des soirées qui sont ça?
Oui.
Quelle est ta position par rapport à ça?
Ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que le dimanche matin, souvent, c'est l'endroit le plus difficile. Je dis franchement, j'ai fait la louange des dizaines, des centaines de fois dans toutes sortes d'endroits, dans toutes sortes d'horaires, toutes sortes de lieux. Je crois que le dimanche matin, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que tout le monde s'attend à tout le dimanche matin. Le président, il veut faire la meilleure présidence. Le prédicateur veut faire sa meilleure prédication. La louange veut faire son meilleur programme. Les enfants veulent présenter un truc. Il y a les baptêmes, il y a les annonces. Et puis tout ça, il faut le faire en 1h30 ou 2h. Ou peut-être 3h. Mais c'est très concentré. Et on n'y arrive pas. Et tout le monde est frustré. Parce que personne n'a réussi à faire tout ce qu'il voulait. Personne n'a eu assez de temps. Alors moi, je dis, mais donnons-nous le temps. Moi, je vais dire, okay, je ne suis pas frustré de la louange du dimanche matin qui fait que 20 minutes. Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une soirée de louange avec 3 heures de louange. Donc, ça ne pose aucun problème. Ou je sais que ce soir, je vais avoir une réunion où on va avoir le temps de louer. Mais si toute ma vie spirituelle se résume au dimanche matin, alors oui, je suis frustré. Évidemment. Mais comme ma vie spirituelle ne se résume pas au dimanche matin, je sais que lundi matin, je vais aller à la maison d'adoration adorer pendant 2 heures, ça va être super. Je sais que mardi soir, j'ai une soirée de louange dans l'église, ça va être super. Je sais que mercredi. Donc, le dimanche, ça ne me frustre plus du tout. Donc il faut se donner les moyens, et je crois que c'est vrai que le dimanche matin, c'est le dernier endroit où ça va changer. Donc je parle de ce changement. Parce que le dimanche matin, c'est l'endroit où on est encore le plus figé dans nos structures, dans nos habitudes. Mais si tu commences à vivre des soirées de louange, samedi soir avec l'église, tout le monde va pas venir, mais il y a peut-être la moitié de l'église qui vient samedi soir. Mais tu fais ça pendant 6 mois, et les gens aiment la louange. Ça va se voir le dimanche matin, ça va se ressentir, parce qu'ils vont plus louer la même chose. Et puis les autres qui viennent pas, ils vont commencer à prendre goût, ou à vouloir être intéressés, ou à peut-être dire, ça serait peut-être bien que j'aille une fois samedi soir voir ce qui se passe. Et petit à petit, il va être touché, et puis voilà. Donc des fois, c'est juste les chrétiens qu'il faut gagner à cela. Et on a du travail. Et pour cela, il faut se donner les moyens. Donc moi, je conseille cela à beaucoup d'églises. Faites des soirées longues, évidemment. Si vous trouvez de la louange, on va passer le dimanche matin, faites des soirées longues. Ou de temps en temps, alors un culte long, chose qu'on avait fait dans l'église plusieurs fois, c'est dire, c'est un culte consacré à la louange. Il n'y aura pas de message, on le dit dès le début. Et comme ça, les gens savent, et puis on peut aller plus loin. Et c'est vrai que c'est souvent là l'occasion d'aller plus loin, parce qu'au moment où on commence à vivre quelque chose, c'est le moment où normalement ça fait très pour aller dans le message. Et puis là, vu que tu sais que tu as encore 30 minutes, ben tu peux aller plus loin. Tu peux vivre les choses beaucoup plus paisiblement, tu n'as pas peur de reprendre un chant une fois parce que tu dis, bon, j'ai encore le temps de finir. Tu dis, bon, on dit, ah, il faut vite que je finisse parce que maintenant c'est la fin de scène, ou c'est ci, ou c'est ça. Donc, voilà, le culte va changer, le culte va évoluer, mais finalement, c'est pas le but ultime, c'est pas qu'on change le culte. Le but ultime, c'est qu'on se donne les moyens de vivre ce qu'on va vivre. Et si c'est pas dans le culte, ben ça sera un autre moment. Donc à chaque église, de trouver le moment approprié pour faire ces changements. Mais c'est vrai que dans tout ce que j'ai vécu, je les ai vécu, les choses les plus fortes, les plus marquantes, je les ai vécues en dehors du culte. Hein? C'est souvent dans des réunions, en dehors, dans des séminaires, dans des autres moments. Et puis ensuite, ça a influencé ma manière de vivre le culte et de même d'avoir d'exercer mon ministère dans le culte. Mais ça s'est vécu souvent en dehors. Donc ça, c'est une option à prendre vraiment. Tout à fait. Je pense que ce qui est important aussi dans la louange actuellement, c'est d'apprendre à vraiment donner la louange au peuple, donner la louange à l'église. Quand je me suis converti en 77, la louange était dans toute l'église. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas de groupe de louange et peu de personnes qui dirigeaient, tout le monde venait en sachant qu'il pourrait un peu inspirer la louange. Hein, en entendant un chant, en faisant une prière, et toute la louange partait de la salle. Il y avait très peu qui venaient de devant. Juste un président qui, de temps en temps, accueillait et terminait. Mais tout le reste venait de là. Puis maintenant, on a développé les groupes de louanges, les directeurs de louanges, les musiciens, c'est super. Dieu a donné beaucoup de diversité, beaucoup de talent. Mais maintenant, j'ai vu que dans certaines églises, la louange appartient au groupe de louanges et personne n'y touche. Ouais. Ils se sont emparés de la louange, ils l'ont prise et ils ne la laissent plus aux gens. Attention, moi je sais chanter, moi je sais jouer, moi je sais quel chant il faut prendre. Et puis les gens, ils sont là. Et puis on force les gens à devenir spectateurs. Alors j'ai dit des fois c'est le problème des gens qui étaient spectateurs, mais des fois c'est le groupe de louange qui amène ce problème. Parce que le groupe de louange, il fait son spectacle, il fait son show, il fait son programme, puis les gens, obligatoirement, ils sont obligés d'être spectateurs. Parce qu'on ne leur laisse pas le temps de prier, on ne leur laisse pas le temps d'écouter Dieu, on ne leur laisse pas le temps de proposer quelque chose ou d'intervenir. Et je crois que ça, il faut vraiment comprendre. Il faut pas, faut être prêt à être dans les deux rôles. Si vous êtes devant, n'oubliez jamais comment vous êtes quand vous êtes dans la salle. Et comment vous vivez les choses quand vous êtes dans la salle. Alors que les leaders ne s'emparent pas de la louange. Ils ne la contrôlent pas. Ils la dirigent, ils l'orientent, mais en même temps, ils laissent participer. Donc, moi, quand je tombe la louange, j'essaie de tout faire pour que les gens se sentent participants. Bien sûr, ça dépend aussi du nombre de personnes dont j'en ai parlé. Si vous avez 40 000 personnes, difficile. Mais quand même, dans le choix des chants, dans la manière de conduire, dans les interventions, vous pouvez encourager les gens à prier en disant, mais maintenant faites monter vos prières vers Dieu, c'est important, on va tous élever nos voix vers le Seigneur. Ou bien vous méprisez les prières des gens, puis vous êtes le seul à prier au micro. Quoi. Ça, pour vous, c'est pas important que les gens prient ou qu'ils ne prient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut qu'on considère qu'on est un peuple, qu'on est une nation, comme je disais, que la louange de chacun est importante, la parole de chacun est importante, il faut donner l'occasion aux gens de le faire. Et de le dire. Il faut qu'on apprenne vraiment à travailler en équipe de ministère, je dirais. La louange est un ministère, même s'il n'est pas dans la liste des 5 ministères, c'est un ministère qui est au service des 5 ministères et en collaboration avec les 5 ministères. Et quand je travaille comme prophète, quand je travaille comme apôtre, quand je travaille comme pasteur, je sais ce que c'est un pasteur, je sais ce que c'est un prophète, je sais ce que c'est un apôtre. Et un évangéliste, bien sûr, un enseignant. Donc, je m'adapte aussi à ces ministères-là. Et je travaille avec ces ministères-là en les comprenant. Donc, si je sais que j'ai un enseignant qui est là et qu'on a prévu que cet enseignant exerce son ministère, je ne vais pas lui prendre la place avec la louange, vous voyez ? La louange va servir son ministère. Si je sais que j'ai un prophète qui est là, je sais que la louange va avoir l'interaction avec le prophète et que je vais peut-être le laisser prophétiser entre deux chants. Et puis que je dois être à l'écoute de ce qu'il va dire et que je dois fonctionner avec son ministère. Et sa manière va être très différente de l'enseignant qui va rester bien gentiment assis jusqu'au moment où je donne la parole. Hein? Enseignant bien structuré, bien poli, qui relit ses notes. Et au moment où la louange est terminée, eh bien. Alors que le prophète, peut-être qu'au deuxième chant, tout d'un coup, il va être touché par Saint-Esprit, il va prendre le micro, il va intervenir. Comment je réagis ? Eh bien, je suis préparé à ça. Parce que je sais que c'est un ministère et que je respecte le ministère qui a été donné. Et il faut aussi bien comprendre, dans la louange, vous avez aussi ces cinq ministères qui se manifestent et qui peuvent être différents. Un directeur de louange peut être pasteur, un directeur de louange peut être apôtre, un directeur de louange peut être évangéliste. Et il ne va pas faire la louange de la même manière, selon son appel à lui, n'est-ce pas ? Selon votre appel, vous allez exercer la louange en fonction de votre appel. Je connais des directeurs de louange qui sont évangélistes, ils ne peuvent pas faire la louange sans faire un appel au salut. Et puis c'est très bien qu'ils utilisent comme ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment bergers, ils rassemblent tout le temps les gens. Ils veulent tout le temps que tout le monde soit dans la louange, toutes leurs conceptions. Est-ce que tout le monde se sent bien dans la louange ? Est-ce que tout le monde est bien ici ? Je veux que personne ne soit mis de côté. Il y en a d'autres qui sont très prophétiques, entre chaque chant, ils ont une parole à donner. Tous les chants qu'ils utilisent sont des chants très, très pointus, et puis ils donnent des paroles, etc. Ils dirigent les gens d'une direction, après dans l'autre. Voilà. Alors, si on comprend, ça va aussi nous aider à savoir donner la place au ministère. Vous savez, un responsable de louange, prophétique, qui fait tous les dimanches la louange, ça va être difficile pour l'église. Hein? Il faut avoir un directeur de louange qui soit aussi berger, peut-être un autre qui soit peut-être plus apostolique, et puis qui rassemble, qui met tout le monde ensemble, et puis qui donne une vision globale aux choses. Donc reconnaître ses ministères, ça aide aussi à servir au ministère.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.